Deutsche Welle. Afrique 7 jours.
Des jeunes qui s'engagent pour la paix en Afrique de l'Ouest, la démarche vaut d'être encouragée. Ce sera le reportage de cette édition d'Afrique 7 jours qui vous est proposée aujourd'hui par Marie-Ange Pierron. Nous verrons ensuite quels sont les thèmes africains qui ont retenu cette semaine l'intérêt de la presse allemande. Bonjour à tous. La paix, rien que la paix dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Voilà ce que réclament les jeunes scouts du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Ils viennent de tenir un grand forum à l'occasion des deuxièmes journées internationales des scouts du Sénégal. Des journées qui ont eu lieu en début de semaine à Ziguinchor, la principale ville de la Casamance, dans le sud donc du Sénégal. Notre correspondant Mamadou Alpha Diallo a suivi ce grand rendez-vous sous-régional qui a regroupé plus de 1500 jeunes.
Les scouts du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau ne veulent plus attendre que les seuls décideurs politiques définissent les stratégies pour une paix en Afrique de l'Ouest. Ils ont mis à profit les deuxièmes journées internationales des scouts du Sénégal, organisées du lundi au mercredi dernier à Ziguinchor, pour tenir un grand forum, envie de réfléchir sur quel type de rôle ils peuvent jouer dans la recherche de la paix en Casamance, proie à une guerre civile qui dure depuis 30 ans, et au-delà, dans toute la sous-région de l'Afrique de l'Ouest de manière générale. Écoutez à ce titre Henri Ndeki, commissaire international des scouts du Sénégal, qui explique l'objectif de ce forum.
Nous avons choisi d'apporter notre réflexion sur l'apport du scoutisme à la recherche de la paix en Casamance. C'est pourquoi nous avons initié c'est juste et comme terre d'accueil, Ziguinchor, pour accueillir ce forum international qui regroupe les scouts de Gambie, les scouts de Guinée-Bissau et les scouts du Sénégal pour réfléchir autour du rôle, la responsabilité vraiment des jeunes dans la recherche de la paix en Casamance.
Concrètement, qu'est-ce que vous envisagez de faire justement pour l'avènement de cette paix?
Il faudrait qu'on participe à réfléchir, à donner notre proposition parce qu'en tant que jeune et en tant que responsable de structure de mouvement, d'association de jeunesse, on ne peut que nous, à notre niveau, sensibiliser nos jeunes à ne plus emprunter la voie armée ou bien la voie de la violence pour réclamer nos droits, mais plutôt utiliser d'autres voies qui se trouvent être la voie de la non-violence pour réclamer nos droits ou bien pour réclamer justice. C'est dans ce sens-là que nous avons pensé qu'en réunissant les jeunes des trois pays, nous allons nous retrouver d'abord pour partager des expériences dans le cadre des différents conflits vécus par nos différents pays. C'est ça vraiment qui motive vraiment l'organisation de ce forum-là pour apporter la pierre de la jeunesse.
Après la Casamance, les scouts des trois pays cités, avec l'appui des instances de la CEDEAO, envisagent de s'ouvrir aux zones des autres pays de la sous-région pour le même objectif, souligne Henri Ndeki.
Nous voulons également, avec le soutien de la CEDEAO, faire un voyage en Guinée-Conakry, faire un voyage au Mali et aller vers le Niger pour rencontrer les jeunes et voir comment nous allons mobiliser la jeunesse africaine pour apporter leur contribution aux côtés de la CEDEAO.
Pour Manuel Biagé, membre de la délégation Bissau-Guinéen, le rendez-vous de Ziguinchor n'est qu'un début d'une vaste campagne qui va toucher d'autres pays de la sous-région déchirés par la violence.
Ça, c'est un début d'une vaste campagne pour trouver la paix dans la sous-région. Aujourd'hui, on a commencé avec le problème de Casamance et qui peut s'étendre jusqu'à le problème des autres pays d'Afrique. Ça, c'est un début, ce n'est pas un fin, c'est juste un commencement.
De l'avis du professeur Nouha Cissé de l'université de Ziguinchor, un observateur avisé de l'évolution des conflits dans la sous-région, ce que ces jeunes sont en train de faire est un exemple qui peut être démultiplié dans d'autres pays où l'on note des foyers de tension.
La manifestation concrète de ce qui est attendu de ces jeunes, c'est ce que les scouts viennent de nous démontrer, c'est-à-dire la mobilisation de ceux-là. Et surtout, la nécessité pour les jeunes qui sont, à la périphérie des conflits, comprennent que le conflit qui éclate est déjà un danger potentiel au niveau de la sous-région où ça éclate. Que les Gambiens et les Bissau-Guinéens, les jeunes, comprennent que le conflit de Casamance peut être un danger embrasant la Gambie et la Guinée-Bissau, mais également que les jeunes de Côte d'Ivoire, de Sierra Leone, du Libéria, de la Guinée-Conakry, du Burkina Faso, comprennent que le conflit ivoirien peut effectivement s'étendre et avoir des conséquences graves. C'est pourquoi je garde l'espoir ferme que ça peut être un exemple et les jeunes peuvent le suivre pour que ce soit démultiplié partout, dans les autres parties de l'espace ouest-est africain et de l'Afrique en général.
À l'issue de la rencontre de Jigensor, toutes les délégations devraient se rendre directement en Gambie pour faire le même plaidoyer pour la paix en Afrique de l'Ouest et au-delà, sur tout l'espace du continent africain. Mamadou Alpha Diallo, à Jigensor pour la Deutsche Welle.
Et maintenant donc Afropresse, l'Afrique à travers la presse allemande. Septembre, c'est dans beaucoup de pays le mois de la rentrée scolaire. En République démocratique du Congo, elle aura lieu le 3 septembre, y compris dans les zones de guerre de l'est du pays, où beaucoup d'écoles ont été pillées et où d'autres sont bondées de réfugiés. Cette rentrée, lit-on dans die Tageszeitung, ne sera évidemment pas simple dans une région comme le Nord Kivu. Exemple, dans le village de Kibumba, situé directement sur la ligne de front entre forces gouvernementales et rebelles du M23. Depuis 4 semaines, les armes se sont tues, mais les combats peuvent reprendre à tout moment. Innocent Rouima, le directeur de l'école, raconte que, comme beaucoup d'autres, il avait fui à la mi-juillet. Il est revenu pour rouvrir l'école car certains de ses élèves sont de retour. Normalement, est-il précisé dans ce reportage, les parents paient 10 dollars de frais de scolarité par trimestre. Les instituteurs sont payés 60 dollars par mois. Mais rien n'est normal à l'école de Kibumba. Les portes ont été à moitié arrachées. Les pilleurs ont tout emporté, dit le directeur de l'école. Les tables, les chaises et même le tableau. Toujours à propos de la RDC, le même journal relate dans son édition de mercredi la disparition d'un opposant, Eugène Diomi Ndongala, chef du Parti chrétien démocrate. L'opposition affirme qu'il a été battu, empoisonné et qu'il est enfermé dans une cave du palais présidentiel. Les organisations de défense des droits de l'homme ne peuvent le confirmer. Comme le déclare Dolly Ibefo de La Voix des Sans-Voix, nous ne savons pas si Diomi est encore en vie ou non. Ce qui est certain, poursuit le journal, c'est que plus personne ne l'a vu depuis le 27 juin. Comparé aux écoles du Nord Kivu, l'école dont il est question dans l'hebdomadaire Die Zeit fait figure de rêve. Elle est située au Swaziland, c'est un United World College, un collège international où des jeunes de 17 et 18 ans peuvent étudier pendant 2 ans. Il y a 12 United World Colleges à travers le monde. Celui de Waterford, comme là-bas, au Swaziland donc, accueille 600 élèves de 54 nations, explique Die Zeit. Des jeunes comme le Sud-Africain Lerato, le Français Dimitri, les Allemands Sébastien et Léonie. Des idéalistes, souligne le journal, révoltés par les injustices de ce bas monde. Ils ont été sélectionnés en fonction de leur capacité et non de la fortune de leurs parents. C'est une école, poursuit Die Zeit, pour toutes les couleurs de peau, toutes les ethnies, toutes les religions, pour une meilleure entente entre les peuples. Mais l'idylle est quand même un peu brouillée. D'une part, le Swaziland est parmi les pays les plus pauvres du monde. De l'autre, depuis que l'école accueille des orphelins et des boursiers venus de ghettos noirs, le fossé entre riches et pauvres s'est élargi. Lawrence Noder, le directeur sud-africain blanc de l'école, se demande s'il ne doit pas intervenir plus fermement lorsque certains élèves ont plus d'argent sur leur carte de crédit que certains enseignants, alors que d'autres viennent mendier de l'argent dans son bureau pour s'acheter un déodorant. Nous restons en Afrique australe avec un article de la Frankfurter Allgemeine Zeitung sur la mine de Marikana en Afrique du Sud. Cette mine de platine où la police a tué 34 mineurs en grève. Les ouvriers sont déterminés à poursuivre leur combat, lit-on dans cet article paru mardi dernier. Mais souligne le journal, cela fait longtemps que la grève ne porte plus seulement sur des revendications salariales. Avec la fin de la ségrégation raciale en 1994, la population noire d'Afrique du Sud espérait une vie meilleure. Or, le fossé entre riches et pauvres est aujourd'hui plus profond encore que du temps de l'apartheid. Comme le dénonce collaborateur d'une fondation soutenue par les églises, Chris Molebatsi, nos hommes politiques, nos leaders syndicaux ont tous des participations dans les compagnies minières. Ces gens-là sont de plus en plus riches, ils n'ont aucun problème à dépenser 19 millions de rands pour acheter un buffle. Celui qui voulait acheter un buffle à ce prix-là, soit environ 1,8 million d'euros, précise le journal, c'est l'ancien syndicaliste Cyril Ramaphosa, autrefois militant contre l'apartheid et aujourd'hui l'un des hommes les plus riches du pays. On termine ce tour d'horizon au Mali, un pays scindé en deux avec, comme l'écrit Dit Saïd, des talibans à Tombouctou. Du jour au lendemain, le pays a vécu une métamorphose sans pareil, souligne le journal. Encensé il y a encore peu de temps comme modèle africain de démocratie et d'islam modéré, il passe à présent pour le nouveau théâtre de la guerre contre le terrorisme. Washington, Paris et Bruxelles sont alarmés et se disent surpris. Or, poursuit le journal, les Occidentaux auraient dû s'inquiéter dès 2003, en particulier l'Allemagne qui, depuis les années 90, a octroyé au Mali une volumineuse aide au développement. Il y a près de 10 ans, 15 touristes allemands avaient été enlevés dans le Sahara, puis libérés plus tard contre une rançon de 5 millions d'euros. Ce fut le départ d'un boom économique, le business des prises d'otages. Les donateurs occidentaux, souligne le journal, aurait dû alors se rendre compte de ce que la population malienne savait depuis longtemps déjà. L'État démocratique et transparent que le mouvement réformateur malien voulait construire après la chute de la dictature au début des années 90 n'était qu'une façade. Elle dissimulait dans le nord un État de non-droit enfoncé dans le trafic de migrants, de cigarettes et de drogue. Afrique 7 jours, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, vous retrouverez Fréjus Kenom à ce micro.